France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des gens géniaux et des initiatives réjouissantes tous les jours dans les carnets de campagne. Cette semaine, c'est la Loire-Atlantique qui est à l'honneur. Aujourd'hui, on s'intéresse à une association qui plante des arbres adaptés au changement climatique. Ça se passe à Préfailles. Et ensuite, je passe un coup de fil à la créatrice d'un tiers-lieu au Cellier, près de Nantes. Un endroit où l'on trouve notamment une cantine solidaire qui cherche plus de bénévoles. Des arbres fruitiers et une cantine à la mi-journée. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Préfailles est une commune du littoral de Loire-Atlantique, juste à côté de Pornic, où a été plantée récemment une forêt pollinisatrice. Bonjour Yvaine Lemel.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes membre d'une association baptisée Les Forêts du Futur à Préfailles. Quelle est la raison d'être de cette association ?
Alors, l'idée, c'est de planter des arbres dans une commune qui est historiquement, surtout en lien avec des landes. Des arbres ont été plantés à la fin du 19e, quand les urbains sont arrivés pour construire des villas. Beaucoup de pins Lambert, beaucoup de cyprès Lambert, pardon, beaucoup de chênes verts. Mais avec l'évolution du climat, ce sont des arbres qui ne sont plus tout à fait adaptés, qui sont surtout en bordure de communes, mais dans les construction plus récente au niveau des lotissements, il n'y a pratiquement pas de plantation. Ce qui fait qu'on a un pourcentage d'artificialisation qui est quand même assez important.
Le point de départ donc de l'association, c'est de réfléchir à quelles essences d'arbres sont les mieux adaptées quand un arbre est abattu par une tempête, par exemple, et qu'on doit replanter.
Par exemple, voilà, exactement. Et comment favoriser la biodiversité ? Là, on est un peu trop monoculture, si je puis dire.
Parlez-nous de cette forêt pollinisatrice, Yvan. Elle a été plantée sur une friche ?
Tout à fait. Une friche qui a été mise à disposition par la mairie, qui est la première parcelle que la mairie met à notre disposition, mais il y en aura quatre à terme. Là, c'est une friche de 5700 m2 à peu près. Et nous avons planté 220 arbres pollinisateurs, dont 80% de fruitiers.
Quelles espèces en particulier ?
Alors en fruitier, c'est tout ce qui est abricotier, cerisier, pommier, poirier, etc., etc. Des tilleuls également. Et puis il y a une vingtaine de pourcents à peu près simplement qui sont un peu hautes, sophora du Japon, des néfliers, des choses comme ça. Donc des variétés un petit peu différentes.
Vous avez aussi la volonté de travailler à la japonaise, si je puis dire, avec des plantations d'arbres très denses qu'on appelle des micro-forêts Miyawaki. En quoi consistent ces micro-forêts, Ivan ?
Alors, ce sont des forêts qui sont à très forte densité, avec des espèces d'arbres indigènes, donc qu'on retrouve ici. Sur une petite surface d'un mètre carré, par exemple, on plante 2 à 3 arbres, mais du style chêne, châtaignier, etc. Et l'idée, c'est de restaurer, en fait, des écosystèmes forestiers qui sont riches en humus, de manière à améliorer le sol. Alors, on vient de les planter à l'automne dernier, donc il y a un an, fin 2024. Donc, du coup, on ne peut pas avoir encore une appréciation. Il faut compter une dizaine d'années avant d'avoir une appréciation complète de ce que ça peut donner. Par contre, il existe beaucoup de communes qui font ça, souvent sur des ronds-points, dans des endroits un peu particuliers, qui le font déjà. Pornic, c'est le cas d'ailleurs sur un rond-point et une forêt qui doit être plantée déjà depuis 3 ou 4 ans.
Yvan, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre motivation à vous engager dans cette aventure associative, puisque vous êtes bénévole. Vous êtes à la retraite, vous avez travaillé comme infirmière puis consultante. Qu'est-ce qui vous a guidé vers ce combat pour les forêts du futur ?
Alors déjà, moi, j'ai mon jardin en permaculture, donc je suis particulièrement intéressée par ce côté. D'autre part, c'est un projet citoyen. Ça implique tous les habitants de la commune. L'idée, c'est aussi améliorer la biodiversité, conserver un patrimoine important, que ce soit aussi un lieu qui appartienne à tous. Donc, c'est aussi un lieu de promenade. Nous avons fait un cheminement PMR.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, donc.
Exactement, voilà. Nous mettons en place des chantiers pédagogiques. Et là, on a des projets encore pour l'avenir avec une exposition cohabitée avec les arbres. Je trouve que j'ai fait partie de beaucoup d'associations. C'est un des projets les plus ambitieux, je crois, auxquels j'ai participé.
Et notamment pour ce que ça implique de connaissance des arbres. Il est important que les citoyens s'approprient ce sujet.
Exactement, c'est-à-dire sortir un petit peu des arbres qui sont systématiquement proposés ou plantés et permettre aux citoyens de réfléchir. Ça va être d'ailleurs l'objet un peu de l'exposition cohabitée avec les arbres, puisque nous aurons l'idée d'initier, de promouvoir la plantation chez les particuliers après un temps de réflexion en écoutant quels sont leurs besoins et en les aidant, en les accompagnant dans le choix des arbres.
Oui, parce qu'on plante ce qu'on veut chez soi, mais autant y réfléchir.
Exactement. Et notamment, on prioriserait sans doute les habitations des zones qui sont identifiées comme potentiels îlots de chaleur dans la commune. Il y en a, on s'en rend bien compte, notamment sur les lotissements récents.
Votre association Les Forêts du Futur propose au grand public de parrainer des arbres. Comment ça marche ?
Alors en fait, les personnes peuvent, à partir du site, forêtdufutur.fr, peuvent tout à fait parrainer un arbre. Ils choisissent l'essence. Il y a un numéro qui est attribué à chaque arbre et du coup, ils peuvent même aller, pourquoi pas, sur place, choisir l'arbre qu'ils souhaitent. Ça a été mon cas puisque je parraine deux arbres.
Et c'est un plaisir d'aller voir comment pousse l'arbre qu'on a parrainé ou marrainé.
Ah oui, tout à fait. Étonnant parce que moi, notamment, j'ai parrainé un néflier. C'est un fruit que je ne connais pas, la nèfle. Et du coup, j'étais surprise déjà de le voir, de voir comment est-ce que ça pousse et puis la rapidité avec laquelle ça pousse. Oui, c'est intéressant. Et je m'aperçois chaque fois qu'on va travailler sur le terrain, puisque très régulièrement on se retrouve dans nos chantiers pédagogiques, que finalement les gens commencent à prendre l'habitude de venir s'y promener et du coup nous interpellent, nous interrogent, savoir comment est-ce qu'on arrose. On a creusé un puits, on a détourné les eaux pluviales du lotissement d'à côté pour créer une mare. On va également restaurer deux mares naturelles existantes. Donc voilà, les gens s'intéressent à ça.
Et c'est ça finalement l'ambition de l'association.
Ben, exactement, oui. Vous voyez, que tout le monde soit interpellé, s'y intéresse, comprenne un petit peu le pourquoi de la nécessité de la sauvegarde de ces arbres.
Parrainer un arbre, c'est aussi une manière de se projeter dans un futur qui nous dépasse.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça va donner d'ici quelques années, en sachant que notre premier projet, c'était donc cette forêt mellifère, mais qu'on a trois autres parcelles qui vont également exister. Une forêt méditerranéenne. Dès 2026, là, on va replanter une forêt de feuillus résistant à la sécheresse. Et il y aura encore une parcelle qui sera testée, tout ce qu'on n'a pas testé ailleurs.
Qu'est-ce qui vous rend fier, Ivan ?
Qu'est-ce qui me rend fière ? C'est vrai que c'est une question que vous posez souvent.
Ouais. Vous avez remarqué. Hein.
oui, j'ai remarqué. Mais je n'y ai pas réfléchi. Participer déjà à un projet collectif, parce que j'aime bien tout ce qui est collectif. Donc ça, c'est toujours bien. Et dans une ambiance qui est sereine et très positive et qui veut participer quand même, je l'espère, à sa petite échelle, à la sauvegarde de la planète.
Les Forêts du Futur, association de préfailles en Loire-Atlantique. Merci beaucoup, Ivan Lemel.
Mais c'est moi qui vous remercie, Dorothée.
Bonne journée.
Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici au Cellier, petite commune à 20 km de Nantes, où l'on va voir si le sofa est confortable. Sofa, c'est le nom d'un tiers-lieu créé par Tiphaine Coury, qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Alors il se passe plein de choses hein. Au sofa, on va entrer dans le détail bien sûr. Racontez-moi d'abord le point de départ de tout ça. C'est une histoire de famille, Tiphaine.
Oui, exactement. Alors écoutez, ça commence il y a 4 à 5 ans. Moi j'habite la commune du Cellier depuis que je suis toute petite. Je vois que c'est un lieu qui est très chouette mais qui peut manquer d'animation sociale. Et j'ai envie de lancer un projet collectif. Au même moment, j'ai mes deux frères qui ont lancé quelques années plus tôt une brasserie d'insertion, le premier modèle de brasserie d'insertion en France. Et le hasard fait qu'ils trouvent un local plutôt grand sur cette commune du Cellier. Au moment où moi je leur parle de ce que c'est un tiers-lieu, ils me disent « mais ça a l'air incroyable cet outil-là ». Nous, on te donne carte blanche.
Ah, ça, c'est pas mal, ça.
Pas tout à fait la carte bleue, ça aurait été l'idéal. carte blanche pour installer tiers-lieux dans les locaux de la brasserie.
Qu'est-ce qu'une brasserie d'insertion exactement ?
Alors, c'est donc une brasserie d'insertion, ça fait partie de la famille donc des entreprises d'insertion. Mmh. Ça veut dire qu'on va venir proposer à des gens qui sont qui ont été éloignés de l'emploi, qui ont eu un parcours professionnel pas tout à fait linéaire, avec parfois des ruptures ou du chômage ou voilà, quelques accidents, et ben d'avoir un écrin, ils vont venir travailler, mais avec de l'accompagnement. Et donc, ce parcours va durer entre 12 et 18 mois. Et l'idée, c'est après de retrouver un emploi désirable de longue durée.
La Tête Haute, c'est le nom de cette brasserie.
Exactement.
Vous êtes dans une zone artisanale, hein, au milieu d'entreprises, c'est ça ?
Ouais, exactement. Donc, ça peut effectivement surprendre. Mais l'avantage, c'est qu'on a... D'abord, on est bien entouré, on a des super entrepreneurs autour de nous. On a aussi beaucoup de place. Et ça nous permet de faire vraiment collectif, quoi.
Le Sofa est ouvert 3 jours par semaine. Il propose une cantine solidaire, des ateliers de réparation, des spectacles, des apéros tricots et j'en passe. Quel serait le point commun, Tiphaine, entre toutes ces activités ? Quelle est la raison d'être de cet endroit, au fond ?
Alors, la raison d'être, c'est vraiment le lien social. Tout ça, ça sert la rencontre. Le fait que les gens sortent de chez eux, viennent rencontrer l'autre et viennent avec peut-être encore plus d'envie de monter de nouveaux projets. Nous, sur la cantine associative, au début, donc, elle fonctionne avec un projet d'anti-gaspi. Hein, à côté, il y a une association qui fait la distribution d'excédents, en quelque sorte, de la grande distribution qui s'appelle Pain Partagé. Donc, on a monté ce projet-là qui a voilà, un atout environnemental. Mais les bénévoles qui viennent cuisiner avec nous nous disent ça, c'est super, mais nous, ce dont on a vraiment besoin, ce qui nous plaît dans votre projet, c'est les rencontres et le lien social. Pour beaucoup, ça les a sortis de chez eux, remis dans un projet collectif et ça fait ça fait du bien.
Vous avez beaucoup de bénévoles, est-ce qu'il en faut encore plus ?
Alors, oui et oui, c'est-à-dire que oui, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles et je pense que ce qui plaît, c'est qu'au début, on leur a dit, il y a tout à écrire dans ce projet. C'est l'intérêt des tiers-lieux, c'est dans leur ADN, c'est-à-dire qu'on va venir sans cesse pouvoir apporter de la nouveauté et créer. Et donc ça plaît et on compte, nous, une centaine de bénévoles impliqués sur tous nos projets, mais on a toujours besoin. Là, par exemple, on vient de lancer l'expérimentation d'un café associatif mobile pour aller au plus près des personnes isolées dans le bourg du Cellier. Et ben là, par exemple, on a besoin qu'il y ait encore des gens qui viennent nous dire « bah oui, moi je suis dispo tel et tel jour, etc. » Donc sur tous les projets, et puis pour porter peut-être encore des projets à venir, on aura toujours envie d'accueillir du monde.
Le café associatif mobile, c'est pour aller vers ceux et celles qui ne peuvent pas venir sur place ?
Ouais, nous on avait constaté que on est quand même effectivement un petit peu en périphérie, alors sur une petite commune de 4000 habitants, voilà, tout est relatif, mais on n'est pas central. Et on a vu aussi qu'on touchait pas complètement les personnes les plus âgées ou ceux qui avaient pas de mobilité, etc. Donc voilà, on a pu attraper un petit appel à projet là qui nous invitait à réfléchir à la question du bien vieillir en tiers-lieu, et on s'en est emparé pour imaginer un café associatif qui vienne à la rencontre des habitants. Mmh. On va même dans l'EHPAD en tenir un, et puis du coup, il y a des enfants qui débarquent, il y a des gens qui viennent boire un verre, etc. Et on facilite l'animation sociale et les rencontres, quoi.
Comment êtes-vous en lien avec la Tête Haute, qui est gérée par vos frères ?
Alors, avec la brasserie Tête Haute, on partage donc vraiment des valeurs communes depuis le début du projet. Eux, leurs valeurs, c'est cette valeur du brassage social. Et nous, on pousse ça, on le rend concret en allant chercher tout un tas de publics, dont des publics éloignés. Et donc, on continue d'imaginer ensemble des projets communs.
Et puis, vous partagez les mêmes locaux.
Et on partage les mêmes locaux, même si eux nous ont annoncé, il y a quelques mois, un déménagement à l'horizon 2027 du côté de Nantes, parce qu'ils ont besoin de plus d'espace.
Donc, c'est que ça marche bien.
Ça marche bien pour eux, absolument. C'est un chouette projet. Et puis, nous, l'enjeu, là, ça va être de se dire, on récupère encore un peu plus de place. Et qui est-ce qu'on accueille avec nous pour continuer à faire grandir notre sofa, quoi.
Et pourquoi ce nom, au fait, le sofa ?
Quand on est arrivé, quand on a démarré en 2021, on s'appelait Tipeee. Il y avait l'idée de quelque chose d'éphémère. On tentait quelque chose, on n'était pas sûr que ça continue. Et puis, il y avait cette idée de, familial. On installait notre Tipeee, Ensuite, il fallait qu'on raconte notre envie de nous ancrer. Et donc, on a choisi ce mot « sofa » pour dire « on s'installe ». on ralentit aussi, hein, un petit peu comme dans un canap, on se pose, on pose un regard nouveau sur les choses. Et puis c'est un mot qui vient du turc, donc il a voyagé, ça c'est une idée qui nous plaisait bien aussi. Et il dit un canapé pour s'installer, sur lequel on s'installe toujours à plusieurs. Donc il y a vraiment l'idée du collectif.
Sofa, c'est donc au Cellier, en Loire-Atlantique. Merci beaucoup Tiphaine Coury.
Un grand merci à vous.
Et avant de retrouver Nicolas Toufflet, je voudrais vous indiquer l'itinéraire à venir dans les carnets de campagne. On s'intéressera bientôt au Vaucluse et à la Sarthe. N'hésitez pas à nous signaler des initiatives dans ces deux départements. C'est la France en diagonale. Le Vaucluse, Avignon et ses alentours. Et la Sarthe, le Mans et ses alentours. Pour nous écrire, c'est très simple. Un rendez-vous sur le site de France Inter. Rubrique carnet de campagne et vous cliquez sur « Contacter l'émission ».